qu'au bout d'un certain nombre d'années, je pense 2 ou 3 ans, ils étaient jusqu'à, si quelqu'un le sait qui me le dit, je crois que c'était 700 frères uniquement pour pouvoir assurer justement l'expansion de l'apostolat marial. Alors, il est évident qu'au moment de la guerre, ça a fait un désastre politique pour Hitler, puisque cet organe que Maximilien Kolb faisait littéralement traverser à travers toute la Pologne, mais aussi ça débordait bien sûr dans des pays du style du Japon, mettait en cause donc ce qui avait été décidé, à savoir la dissolution absolue de la Pologne, qui était une des conditions pour la réussite. Pour la réussite, il y a un petit gris à droite, vous voyez, et qui vont à Saint-Jacques. Voilà, donc, qu'est-ce que disait donc le père Maximilien Kolb? Autrement dit, là, vous voyez, ce qu'il y a de plus fort chez Maximilien Kolb, bien sûr, c'est sa charité, son martyr, bien sûr. Mais ce que le pape dit, c'est que c'est le fait qu'il ait explicité tout ce que veut dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, vous voyez, exactement comme Claire, qui s'était trouvée donc 3 jours avant sa mort, comme on le disait, avant le début de sa maladie, pardon, devant la statue de Lourdes. Alors la Vierge lui a dit. Et Maximilien aussi s'était toujours posé la question. Et il l'écrivait. Immaculée, qui es-tu? Et ça le travaillait, ça le torturait. Alors, quand il était jeune, il distribuait ses médailles, mais il disait, Immaculée, l'Immaculée, qui es-tu? Il savait très bien qu'il fallait tout faire pour l'Immaculée, tout faire par l'Immaculée, tout faire dans l'Immaculée, tout faire comme l'Immaculée, tout faire, comprenez, tout faire pour l'Immaculée, tout. Mais, alors il s'était mis devant la statue de Lourdes comme ça, et tout d'un coup, d'un seul coup, il a eu ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit d'intelligence et de sagesse, qui lui a fait comprendre en un seul instant. Voyez, mais dans un instant absolument fou au point de vue de l'intelligence, comme dans une vision extraordinaire, tout ce que ça impliquait. Et à partir de ce moment-là, il a dit tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, depuis que Jésus est ressuscité, doit être réinterprété à la lumière du mystère de l'Immaculée Conception. Il faut renouveler toute la théologie, toute la manière de voir Jésus, toute la manière de voir la Très Sainte Trinité à travers le mystère de l'Immaculée Conception. Vous voyez, entre parenthèses, ce qu'on dit en ce moment, que vous entendez beaucoup, on est en train de sortir, on est en train de sortir de l'ère du poisson et on rentre dans l'ère du Verseau. On vous ressasse ça tout le temps, en disant fini pour l'ère chrétienne. Complètement idiot, ça, hein? Mais en même temps, vous voyez, l'ère du Verseau, il ne faut pas oublier que l'ère du Verseau, je ne suis pas du tout d'accord, bien entendu. Hein. Mais vous pouvez toujours leur répondre, vous savez, le Verseau signifie quand même, le Verseau, c'est le...
C'est pas à droite, là?
C'est le messager, le Verseau. C'est vrai que dans le Christ, c'est le poisson, parce que c'est, vous le saviez bien, je pense, ah bon, je répète, alors le Christ, c'est le poisson, c'est le symbole des chrétiens, c'est le poisson. Pourquoi? Parce que les initiales en grec, en latin, pardon, de Christ, de Seigneur Jésus-Christ, attendez, Iskous, alors, Jesus Christos, Iostios, Theouios, Soter, alors Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Si vous faites les initiales de ça, qui est en grec, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, ça donne Iktous, qui donne poisson en grec. Donc la jonction entre le grec, qui est la langue de l'écriture du Nouveau Testament, et Rome, c'est-à-dire la langue de Pierre, va donner que le mystère du Christ vécu en lui-même et vécu dans ses membres, ce sera le poisson. Et donc l'ère du poisson, si on voulait baptiser ce qu'on dit, à savoir qu'on est dans l'ère du poisson, c'est le mystère où dans l'histoire de l'humanité, ce qui domine, ce qui est la locomotive, comme dirait Saint-Père, ce qui est la fusée dont le Saint-Esprit se sert pour emporter l'humanité, c'est le mystère du Christ et de l'Église. Et le Verseau, voyez, c'est pour ça que Jésus, à la résurrection, multiplie les 153 poissons, voyez, vous rappelez. Il est ressuscité, pêche miraculeuse, il fait compter les poissons, 153 poissons. Et pendant ce temps, il fait crier sur la braise un poisson. Pour montrer que les 153 poissons sont un seul poisson, les 153 poissons sont dans la barque de Pierre, donc dans l'église de Jésus, Saint-Pierre et du Pape, sur les flots, voyez, transitoires, voyez, on s'enfonce dedans, l'eau, ça file comme le temps. Donc sur les eaux du temps, l'église amène les poissons vers l'unique poisson qui est le Christ qui est sur le sable, donc le sol stable de la résurrection, et le poisson qui est Jésus est sur les braises ardentes, il est sur la braise de la résurrection. Vous voyez, au fond, c'est le mystère du Christ et de l'Église, c'est bien ça, c'est le poisson. Et quand on vous dit, puis si vous voulez baptiser ce qu'on dit, à savoir qu'on rentre dans l'air du Verseau, dites pas que ça vient de moi, ça pourrait m'attirer des ennuis, mais alors il faut baptiser ça. Le Verseau, c'est ce qu'a toujours fait l'Église, d'ailleurs, à chaque fois il y avait un temple païen, elle se précipitait pour le transformer en mettant une croix, en mettant des statues, en transformer en église du Seigneur, quoi. Hein. Bon, alors on va faire pareil. Le Verseau, c'est le messager. En grec, messager veut dire angelos, angelos en grec. Et le messager, ça n'est pas un messager, mais c'est le messager. C'est le messager par excellence, il n'y en a qu'un. Vous imaginez bien sûr que le messager par excellence, Marie, vous voyez, on ira à Fatima, Marie, reine des anges, messagère. C'est pour ça que les responsables de la route Pierre-Joie ont voulu que quelqu'un à un moment nous parle de la messagère. Hein, parce que c'est vraiment le Verseau. Nous rentrons donc dans le moment où nous devons vivre de tout le message absolument fou que Jésus nous a apporté dans le mystère de l'Immaculée Conception pour le vivre comme, pour vivre sur terre comme elle a vécu, non seulement un petit peu, vous voyez, on partage, on participe à la grâce de l'Immaculée Conception, mais totalement. Parce que quand on se donne à l'Immaculée, elle donne tout ce qu'elle a. Donc, l'ère du Verseau, c'est l'ère où, dans la foi, dans l'intimité extraordinaire du cœur, de tous ceux qui sont attachés à Jésus, on chemine vers la vision béatifique, la locomotive, ce sera toujours bien sûr le Christ et l'Église, c'est évident, mais la locomotive, la tête de pont, le nez de la fusée, c'est l'Immaculée. Comprenez, on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Vous voyez, la messagère, c'est elle, la reine des apôtres. Vous voyez, à Fatima, le 13, elle apparaît le 13. À Lourdes, elle est apparue 13 fois. Vous voyez le tableau, je ne sais pas qui a fait ce tableau génial qu'on a eu là. Qu'est-ce qu'il a fait ce tableau? Où on voit toutes les apparitions de Lourdes, on voit qu'il y a 13 apparitions. Elle convoque pour 15 jours, elle fait 13 apparitions. C'est là les 15 mystères. C'est Dieu. Alors il faudrait que je fasse un petit cours sur les chiffres. Hein, parce que c'est... Sur les chiffres. Un petit cours sur les chiffres très simple que tout le monde doit savoir. 1, hein. Ça veut dire Dieu. Dieu seul. Le Dieu unique. Et je l'adore. 2, Dieu n'est pas. Dieu est seul, il est tout puissant, il est éternel. Mais, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est stable, qu'il est immobile, je veux dire. Il est immobile, mais qu'il ne fait rien. Il y a en Dieu un mouvement métaphysique, éternel, un mouvement de fécondité intérieure qui est la véritable explosion, un tourbillon, émane sans arrêt et sans cesse de la contemplation du Père à un Verbe. Il y a une fécondité dans l'ordre de la lumière, ce que nous disons dans le credo, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il y a un enfantement continuel de tout, puisque Dieu est tout. Et le Verbe est tout. Donc, et perpétuellement, Dieu est engendré, vous voyez. Donc, 2, c'est la fécondité éternelle avant la création en Dieu, et principalement celle du Verbe, celle du Fils, si vous préférez. C'est une fécondité éternelle dans l'ordre de la lumière. 3, cette fécondité est tellement puissante, tellement forte, tellement définitive, tellement profonde, tellement absolue, que ce Verbe est Dieu à lui tout seul. Et nous avons donc deux personnes. Et quand il y a deux personnes qui sont ainsi face à face, elles ne peuvent que se fondre l'une dans l'autre dans l'amour. Et quand le Père se donne en constituant le Verbe, et quand le Verbe se rend dans le sein du Père pour tout lui donner, et pour reconstituer dans le Père le fait qu'il est le Père, il n'y a donc plus ni Père, ni Verbe, il n'y a plus qu'une seule chair. Sauf qu'il n'y a pas de chair en Dieu. Et ça constitue donc la troisième personne, l'amour substantiel du Père et du Fils. Vous voyez, dans le sacrement de mariage, exactement pareil, ce que dit le Saint-Père, le Pape, qui aime beaucoup le Père Kolb et qui a structuré toute sa vision sur l'amour humain, qui est sa spécialité en philosophie, à partir de ce que le Père Kolb a dit. Et il explique justement que dans la très sainte Trinité, vous voyez, il est polonais, Saint-Père, donc il a lu des trucs du Père Kolb. Donc, dans la très sainte Trinité, le Père joue le rôle de l'époux, le Verbe joue le rôle de l'époux, et les deux ne font qu'une seule chair, c'est l'Esprit-Saint. Il n'y a plus qu'un seul Dieu, il n'y a plus qu'une seule réalité. Et cette fusion est tellement substantielle, tellement vitale et substantielle à la fois, qu'on ne peut pas dire qu'ils sont trois séparément. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc vous voyez, trois, c'est l'amour en Dieu. C'est cet amour-là qu'on peut comprendre précisément, j'allais dire qu'à travers, d'une certaine manière, on le comprendra peut-être un jour, à travers le mystère de l'Immaculée Conception. Numéro 4, c'est que Dieu est amour, vous comprenez, et l'amour surabonde toujours, déborde. Même déjà, c'est infiniment débordant en lui-même, ad intra. Alors c'est saint Thomas d'Aquin qui dit que il veut quand même créer à l'extérieur, en latin on dit ad extra, des êtres différents de lui qui vont pouvoir exister. C'est la création. Vous voyez pourquoi quatre, vous avez les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, hein, mais aussi les quatre points cardinaux. C'est aussi pour ça que la croix est structurée par quatre, parce que vous avez bien sûr les quatre grandes plaies, avant qu'il y ait le cinquième qui est réservé à l'Immaculée, vous voyez. Mais la quatre, c'est vraiment la création. À la crucifixion, Jésus recrée tout. C'est pour ça que c'est quatre. Mais à l'origine, c'est Dieu qui crée. Et la création, c'est tout simplement le fait qu'à l'extérieur de lui-même, Dieu crée. 5. Pierre-Marie de la Trinité, petit gris. Un autre petit gris là-bas. Il y a des petits gris ici, les mecs. Ils sont verts et jaunes.
Oui, mais on s'en occupe pas.
On s'en occupe pas.
On va là où on.
Bon, je continue. 4. On a un cinquième. Numéro 5. Le chiffre 5 signifie ceci, c'est que Dieu crée par amour. Dieu crée par amour, et l'amour veut l'unité. Un amour qui ne veut pas l'unité, c'est un amour faux, un amour platonique. C'est Platon. Pas du tout. C'est un amour esthétique, un amour idéalisé. Mais l'amour veut l'unité réelle, l'unité réelle. Alors, c'est pour ça que s'il crée l'univers et chacun d'entre nous, il veut bien entendu l'unité absolue entre nous, quatre, et lui, n'est-ce pas? Et donc ça fait cinq. Cinq, c'est la fusion de Dieu avec sa création, c'est-à-dire la médiation qui va permettre l'unité, la compénétration entre la création et Dieu. C'est ce qu'on appelle le mystère de la grâce.
Monseigneur Ordi.
C'est par la grâce que cette unité va se réaliser. Vous voyez? Donc la grâce en personne, la grâce incarnée, la grâce c'est quelque chose de créé, hein. Donc la grâce incarnée, la grâce en personne, c'est Marie. Jésus n'est pas la grâce, Jésus est Dieu. Donc 5, c'est Marie, si vous voulez, mais si vous préférez, la grâce en personne, la grâce dans sa plénitude. Et ceci, on peut le dire depuis le Concile Vatican II, puisque le Concile Vatican II affirme que Marie est médiatrice de toutes les grâces. Donc elle est source instrumentale de toutes les grâces. Elle est la grâce en personne. 6, je passe, n'est-ce pas, pour pas traumatiser, 7. Pour pas traumatiser cette terre. 7.
Oh là là, c'est un moyen pour qu'on demande que c'est.
Mais ils sont sûrs, voilà. Alors, 7. 7. Ben oui, on est presque arrivé, c'est pour ça.
Là. Où est-ce qu'on est? On est déjà arrivé au tour de la ville,
là, on y arrive, là.
On a combien de temps encore? Est-ce que je peux terminer ou encore?
Ah oui, oui. Ouais.
Bon, alors donc. Ah, oh là là. Bon, si vous voulez, la créature spirituelle, si vous préférez l'interprétation basse. Hein. La créature spirituelle. 4, la créature, si vous voulez, qui est 2, c'est la lumière. Hein. Vous avez bien compris. Hein. La lumière, en Dieu, c'est le Verbe, la lumière. Et dans la créature, c'est-à-dire nous, la pointe la plus noble de notre réalité créée, c'est la sagesse. C'est le fait qu'on puisse contempler et être fixé dans la vérité en soi. 2, la lumière. On peut être entièrement, vous voyez, au fond un moine montre bien ça, une carmélite montre bien ça. Dieu en tant que lumière, source de contemplation, suffit à nourrir toute une vie. La créature est, si vous voulez, elle est spirituelle. Et c'est pour ça que le 6, en général, va être attribué au monde angélique, où ce sont des purs esprits qui sont uniquement créés pour contempler, pour louer et pour servir Dieu. Donc, vous voyez, 6, c'est la créature angélique. C'est pour ça que quand elle va être séparée, j'allais dire, de l'amour, on va le mettre à la triple dimension, 6, 6, 6. C'est-à-dire, elle perd sa finalité, vous voyez, et elle se replie sur elle-même. Parce que 3, c'est l'amour, et lorsqu'on est dans la dimension de 3, on passe nécessairement à 7. Parce que la contemplation doit déborder dans le don. Le don, c'est l'amour. 7, c'est l'amour vécu de manière incarnée. Vous voyez, le Saint-Esprit répandu dans ces 7 dons, c'est ce que signifie 7. Parce que l'Esprit Saint, vous voyez, c'était 3, vous vous rappelez. L'Esprit Saint éternellement en Dieu, c'est 3. Mais quand l'Esprit Saint est envoyé dans les 7 dimensions de l'homme, ce sera 7. Les 7 dons du Saint-Esprit, esprit de sagesse et de crainte, esprit d'intelligence et de conseil, esprit de force et de piété, et esprit de science. Les 7 manières dont l'Immaculée a vécu, de manière si forte, le fait qu'elle était l'épouse du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu dans son intelligence qui ne soit venu directement du Saint-Esprit. Il a littéralement épousé toutes les portions charnelles de Marie. La chair, c'est pas le corps, hein. C'est l'âme en tant qu'elle se soude un corps. Alors bon, très bien. Donc 7, l'Esprit Saint répandu dans ces 7 dons. 8. Ah, ouais, l'Esprit Saint est envoyé. Il t'obombrera, dit l'ange Gabriel à Marie. Il t'obombrera. Obumbrabit. Tibi, en latin c'est beaucoup mieux, obum brabit tibi, ça fait un peu en même temps bombe. Obum brabit tibi, il t'obombrera, et super veniet inte, et il y aura une survenue, donc en même temps un enveloppement spectaculaire, immédiat, subtil mais puissant, et en même temps une survenue intérieure, donc en même temps de l'extérieur, et une survenue. Une super venue de l'Esprit Saint qui va jaillir de l'intérieur en même temps qu'il la serrera par son ombre. Et c'est comme ça que le Verbe va s'incarner. Parce que l'Esprit Saint presse. Marie, c'est son épouse. La grâce en personne, si vous préférez. La grâce en personne, la grâce incarnée et l'Esprit Saint se fondent l'un dans l'autre de l'extérieur, de l'intérieur. Donc un mystère d'explosion et d'implosion qui se conjoignent l'un dans l'autre et qui font que Marie n'est pas pulvérisée et qu'elle demeure, malgré l'incarnation. Et parce que s'il n'y avait pas à la fois explosion et implosion, ce serait foutu pour Marie. Elle ne peut survivre que par le fait qu'entre elle et l'Esprit Saint, la grâce en personne, et l'Esprit Saint, qui est l'amour le plus éternel et le plus puissant qui soit, il y a une compénétration qui opère des deux mouvements. Voyez ça. Et ceci constitue la rencontre de l'amour éternel de Dieu et de l'amour vécu, incarné par la grâce, fait une rencontre tellement glorieuse qu'elle constitue le mystère du Verbe incarné, l'incarnation. Voyez ça. C'est facile à comprendre. Donc 8, c'est l'incarnation. L'amour éternel, c'est 3, hein, et la grâce de Marie, hein, 5. Donc 5 plus 3 fait 8. Vous voyez, la sponsalité, donc le fait que Marie est épouse du Saint-Esprit, va donner 8, va constituer le Christ, qui est Dieu et homme, par la grâce capitale. Et ça fait 8. Donc 8, c'est le chiffre du Christ. C'est pour ça que vous avez 88 chapitres dans les évangiles, les 4 évangiles. C'est aussi pour ça que quand vous faites Jésus Christos, Jésus-Christ en grec, vous faites la somme des lettres. Parce que les chiffres arabes, c'est récent, hein, c'est du 12e siècle, je crois. Mais avant, quand on voulait écrire, par exemple, 258, tu prenais la lettre qui correspondait au 2, tu prenais la lettre qui correspondait au 5, tu écrivais comme ça. Donc chaque lettre a un poids numérique. Donc Jésus-Christ, Jésus Christos en grec, tu faisais la somme des lettres, ça faisait 888. Et si tu faisais en hébreu aussi, avec un système numérique totalement différent, Yeshua, Mashiach, tu faisais la somme des lettres, ça faisait 888. Bref, 8, c'est vraiment le chiffre de Jésus. Vous voyez la différence avec le 666, extraordinaire différent. Oui, parce que le 8, c'est fou. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah ben justement. Et justement, c'est pour ça d'ailleurs je vous fais les chiffres, parce que sinon vous n'y comprenez rien. Donc 8, 9. Bon ben 9, 3 fois 3. Alors oui, c'est à la fois 5 plus 3, vous voyez, ça c'est du côté de Marie et de l'Esprit Saint. Et c'est en même temps, si on le regarde du côté du Verbe de Dieu, c'est 2 fois 4. Donc vous voyez, c'est le Verbe éternel de Dieu qui, c'est plus une addition, c'est une multiplication. Et vous avez tout le traité de saint Thomas d'Aquin sur l'incarnation, qui joue là derrière, qui s'incarne, vous voyez, donc 4, tout l'aspect de la création, et 2, c'est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu s'incarne. De sorte qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu dans une seule personne. L'union est substantielle. Et on appelle ça, vous voyez, quand vous avez entendu parler pour l'Eucharistie de la transsubstantiation, vous voyez, la transsubstantiation, ça prouve que l'unité ne peut pas aller plus loin. C'est une unité que peut faire Dieu dans un acte de toute puissance créatrice. Et évidemment que lorsqu'il a fait créer l'univers à lui tout seul, il a fait un miracle beaucoup moins grand que quand il s'est incorporé une humanité, de manière que son humanité ne subsiste pas dans un être humain. Il a une nature humaine, mais son humanité ne subsiste pas comme nous dans un être humain. Son humanité subsiste dans le Verbe. Il y a une seule personne. Autrement dit, il n'y a pas de personne humaine dans le Christ. Il y a une nature humaine, mais il n'y a pas de personne. Il y a une seule personne. C'est ce qui explique, je voyais, c'est que vraiment, dans l'incarnation, il y a une transsubstantiation, si vous voulez. Qu'est-ce qui est transsubstantié? C'est le sang de Marie qui est transsubstantié. Puisqu'on se saisit de la matière, vous voyez, du sacrement, de l'incarnation, qui est le sang de Marie. Il prend la partie la plus pure du sang de Marie et il opère une transsubstantiation et le transforme dans son propre corps. Donc la substance du sang de Marie est pulvérisée, exactement comme dans l'Eucharistie, transformée dans le sang de Christ. Vous voyez comment le mystère de l'Eucharistie peut être regardé à nouveau, et il doit être ce que dit Maximilien Kolb, à la lumière du mystère de l'Immaculée Conception. Bon, donc 8, vous voyez, vous pouvez regarder Marie et l'Esprit Saint, et puis vous pouvez regarder le Verbe s'incarne. 2 fois 4. faut être très attentif d'ailleurs dans ces questions de chiffres, de ne pas aller trop loin. Il faut toujours rester très simple et jamais dépasser la première dizaine. Sinon, vous risquez de tomber dans la cabale. Faites très attention à ça. Mais il y a quand même une tradition chrétienne, des pères de l'Église, et il faut la respecter. Elle appartient à la tradition chrétienne. Seulement, bien sûr, il faut faire attention, je vous dis à la numérologie, hein. Ne vous lancez pas trop, ou du moins, prenez ce qu'enseigne l'Église. Ah oui, ça c'est très bien. Oui. Bon, alors, donc 8, 9, c'est 3 fois 3. Vous voyez bien. Alors, c'est ce qu'il y a de plus, comme dit Sainte Thérèse, c'est ce qu'il y a de plus mystérieux dans les mystères du mystère de Dieu. Oui, c'est la miséricorde. C'est ce qu'il y a de plus caché en Dieu. Éternellement. Vous voyez, ce qui montre bien que la miséricorde, c'est pas par rapport à nous. La miséricorde, c'est pas le fait que Dieu nous fasse miséricorde. Oui. Pas du tout ça, la miséricorde. Mais Dieu est miséricordieux bien avant la création. Il n'y a pas besoin de nous pour être miséricordieux. Donc c'est ce qu'il y a de plus caché dans le sein et les entrailles du Père. Vous voyez, cette espèce de conjonction absolument fabuleuse qu'il y a dans le sein du Père entre la personne du Verbe et l'Esprit Saint. Entre le Verbe de Dieu, donc la deuxième personne, et le Saint-Esprit, il y a un mystère d'amour entre les deux. Et ça, c'est proprement parlé, c'est ce que Maximien Kolb a vu, c'est à proprement parler ce qu'on appelle le mystère de l'Immaculée Conception. C'est neuf. Et qui récapitule tous les autres. Alors non, vous n'avez rien compris, je comprends. Ça ne fait rien, on essaie de comprendre. Vous comprenez que par exemple, ça peut, on dit ceci, si c'est trop dur, hein, si c'est trop dur, vous me dites que je baisse de niveau. Hein. Je continue alors, hein. Je veux bien. Alors, si ça vole trop, dites-le moi. Hein. Bon alors, donc, je continue alors. Oui. Bon. Alors. Donc ce que dit Maximilien Kolb, hein, puisque tout ça c'était pour voir ce que disait Saint Maximilien Kolb. Qu'est-ce qui peut me rappeler où est-ce que j'en étais lorsque j'ai abordé l'histoire des chiffres là? Personne. Il avait fait des écrits sur l'Immaculée et puis
il lui demandait tout le temps de trouver des prêts. Il lui demandait tout le temps, il avait...
Ah oui, donc je parlais des apparitions de l'autre en disant... Voilà, 13, c'est le 13 qu'elle apparaît. C'est à cause de ça que vous m'avez dit les chiffres, vous pourriez un petit peu me dire. Vous voyez, donc 13. Ah, eh bien, c'est extraordinaire du reste, ça. Hein. Vous voyez, donc, j'ai parlé des 153 poissons tout à l'heure, le mystère du Christ et de l'Église. Vous voyez, la barque de Pierre qui chargeait justement d'être la grande messagère du monde pour annoncer justement le salut par Jésus. Bon. Et c'est exprimé par 153. Parce que tout le mystère de l'Église et de la sainteté dans l'Église, les 153 poissons, c'est toutes les formes.
Votre emplacement de car n'est pas encore déterminé. Ça n'empêche pas que je vous demande d'avancer jusqu'à la route goudronnée afin de pouvoir mieux vous garer. Et
les... Donc tous les saints vivent du mystère de 153, c'est-à-dire du passage de 1 à 3 par la médiation de 5. Autrement dit, 1 c'est quoi? C'est que j'adore. Je dois adorer, ce que dit Jésus à la Samaritaine. Je dois adorer en esprit et en vérité. Dieu me crée. L'adoration c'est quand je suis face à Dieu, le Dieu unique, qui est en train de me créer en ce moment. Je suis suspendu à la créature de Dieu. Je dépends totalement de Dieu au niveau de l'être. Au niveau de la vie, non, parce que ma vie, j'en fais ce que je veux. Mais au niveau de l'être, je ne fais pas ce que je veux. J'existe. Vous voyez? Alors de ce côté-là, je dépends totalement de Dieu. Et l'adoration consiste précisément à prendre conscience que Dieu me crée en ce moment. Et comme je suis dépendant de lui totalement du point de vue de l'être, du fait que j'existe, je prends dans ma liberté toute ma vie qui dépend de moi et je la mets sous la même dépendance par amour. C'est ça un acte d'adoration. Ça prend 4 secondes. Il faut en faire 7 fois par jour à 7 moments différents. Très important pour la santé naturelle de notre âme. Pas surnaturelle, mais naturelle. Donc de passer de l'adoration 1 à 3, c'est-à-dire je rejoins le Créateur de manière vraiment réelle, je rejoins spirituellement, mais je crève le plafond. Vous voyez, parce que quand je peux rejoindre Sibylle, par exemple, comme ça je me rapproche d'elle, je la touche, mais je ne pénètre pas en elle. Et en Dieu c'est pareil, mais par l'adoration, je me rapproche de lui, je peux le contempler, mais je reste encore extérieur à lui. dans l'adoration un peu extérieure. Merci beaucoup. C'est un mot d'accueil du général qui nous accueille. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc, on passe à trois, c'est-à-dire on rentre dans l'intimité de Dieu, et au lieu de connaître Dieu comme créateur, Dieu unique, je finis par connaître Dieu dans les trois personnes, et ma connaissance de Dieu est tout à fait différente. L'expérience intérieure que je fais est totalement différente lorsque je suis en communion avec le Père, quand je suis en communion avec le Fils ou avec l'Esprit Saint. C'est trois manières totalement différentes. Je rencontre trois personnes. Et l'amour que je vis et que j'expérimente est totalement différent. Vous voyez, donc je suis rentré dans la grâce de pouvoir rentrer dans l'intimité du secret intérieur de Dieu. Pour ça, je ne peux pas le faire sans la grâce. 5. Traduisez aujourd'hui, je ne peux pas le faire sans Marie. Bien sûr. Depuis Maximilien, c'est obligé de dire, je ne peux pas le faire sans Marie. On ne le disait pas avant parce que ce n'était pas connu encore. On disait, on ne peut pas le faire dans le catéchisme, on disait, on ne peut pas le faire sans la grâce sanctifiante. Et si on est en état de péché mortel, impossible. C'est ça, péché mortel, c'est ça que ça veut dire. Si je suis dans un état où la grâce sanctifiante n'est pas dans mon âme, donc je peux aimer Dieu de toutes mes forces, toute mon âme, toute mon intelligence, très très bien, mais ça ne décolle pas du point de vue naturel. Je ne rentre pas dans une connaissance distincte des trois personnes divines, parce que je n'ai pas la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante ne se regarde pas par rapport au péché, n'est-ce pas, mortel, c'est l'inverse. Le péché mortel se regarde dans le fait que je refuse la grâce sanctifiante. Délibérément, lucidement et absolument, et définitivement. Alors à ce moment-là, c'est un péché mortel. Bon, alors donc, on a été à 9. Donc, pourquoi 13? Vous voyez, donc 13, Marie à Fatima, par exemple, donne le 13. Mais le 13 octobre, toujours le 13, parce qu'elle est celle qui vit à la fois de 1 et de 3. Donc, de Dieu dans l'adoration, c'est la créature la plus parfaite, et 3, parce qu'elle est là. L'icône la plus parfaite de l'amour éternel du Père dans son Verbe qui est l'Esprit Saint. Et elle donne ce message en disant « Je suis l'Immaculée Conception » à Lourdes, en disant sous 13 modalités différentes, ce que vous avez vu sur le tableau, il y a 13, elle donne rendez-vous pour 15 jours, et puis il y a 13 apparitions. En fait, en tout, il y a eu 18 apparitions. Donc 13 plus 5, vous voyez, on retrouve le 5. Mais dans les 15 jours de rendez-vous qu'elle avait donné à Lourdes, c'est 13. En réalité, sur le total, 18. Dans d'autres lieux d'apparition, elle apparaîtra 18, justement. Elle apparaîtra toujours 18. Dans une apparition en Espagne, là, dans le nord de l'Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne, qu'aime beaucoup Sainte Mère Thérèse de Calcutta, qui va à tous les ans à peu près, qui aime beaucoup aussi un certain nombre de gens. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller.
Ouais.
donc c'est le 18. C'est le 18 qu'elle apparaît dans certains lieux. Donc vous voyez, 1-8 c'est pareil. Hein. 1-3 c'est par rapport à l'amour et 1-8 par rapport au Christ. Donc, bon, ça suffit pour les chiffres. Hein, on ne va pas se noyer dans les mathématiques. Donc reprenons. Le mystère de l'Immaculée Conception, vécu par le Père Kolb, et donc la chose qu'il faut se rappeler absolument, c'est que le Père Kolb a compris et a dit, au fond, que Marie, l'Immaculée, est, alors il faut se rappeler cette formule parce qu'elle est archi-classique, est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Il faut faire très attention, hein. Parce qu'on est dans une époque un peu protestantisée. Ça. Alors, donc il faut faire assez attention. Elle est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Donc vous voyez, le Fils de Dieu s'est incarné, ça a donné le Christ. Et le Saint-Esprit ne s'est pas incarné, parce que sinon, vous voyez, entre Marie et l'Esprit Saint, il y aurait eu une seule personne. Donc, le Père Kolb dit, Marie est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Ça veut dire ceci assez précisément. Et c'est ce qu'il va essayer d'expliquer. Salut mon fils. Ouais, ouais, t'as l'air. Non.
Il est pas là.
Ouais.
Il est là.
Oui,
il est
là. Oui. Tu l'embrasses. Ah bah, ah bah tu veux dire, faire passer ton bras. On le verra tout à l'heure.
Il est là-dedans.
223. Donc il est la, elle est la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Ça, il a voyé, il a compris ça. En réalité, quand il a voulu résumer ce qu'il a compris au pied de la statue de Lourdes, il a résumé en disant j'ai vu de la manière la plus claire que Marie était la quasi-incarnation du Saint-Esprit. Bon, et il a expliqué, bien sûr, parce qu'il faut faire très très attention, c'est très subtil. Il veut dire par là que Marie, comme messagère, laisse passer le message divin sans, exactement comme un écran laisse passer un film, sans mettre quoi que ce soit. Et pourtant, l'instrument de l'écran est nécessaire pour qu'on puisse voir le film. Oui. Et au fond, quand Marie apparaît à Lourdes, on voit la chair glorieuse, lumineuse de Marie. Puisque l'Esprit Saint n'a pas de chair, on voit le corps de la femme, on voit le corps de la grâce en personne. On entend sa voix, je suis l'Immaculée Conception, on entend les cordes vocales, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle. Marie ne dit rien. Et c'est le Saint-Esprit qui dit, je suis, exactement comme dans l'Ancien Testament, Jésus, Dieu dit, je suis. Celui qui suit. Et comme Jésus va dire, quand il va parler du Verbe de Dieu, donc de sa divinité, il va dire, je suis la lumière. Je suis la résurrection. Je suis la porte. Je suis la vie. Je suis le Père, le bon pasteur. Et à ce moment-là, il parle de sa divinité. Exactement, Marie ne peut pas dire en tant que créature, je suis. Dans une apparition eschatologique, elle ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut dire « Je suis ». Vous voyez pourquoi, dans le protestantisme, c'est difficile d'accepter Lourdes. C'est à cause de ça. Parce qu'elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc « Je suis », il n'y a que Dieu qui peut le dire. Et l'Immaculée Conception, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut le dire. Parce que l'Esprit Saint, précisément, est conçu, vous comprenez, dans un amour extraordinaire entre l'époux qui est le Père et l'épouse qui est le Verbe de Dieu, et qui conçoivent éternellement un amour si puissant et si immaculé que c'est l'Esprit Saint. La conception immaculée et l'Immaculée Conception éternellement entre le Père et le Fils, qui se réunissent comme un homme et une femme se réunissent pour faire une seule chair, constitue la condition sine qua non de l'émanation, de la spiration, de la conception éternelle, immaculée, absolue du Saint-Esprit. Je suis l'Immaculée Conception, c'est la définition du Saint-Esprit. Ceci est tout à fait nouveau, hein. Et quand le Saint-Père a entendu ça, Maximilien Kolb, avant qu'il n'ait été pape, il a... Si vous avez entendu l'enseignement du Saint-Père sur l'homme et la femme, il regarde l'homme et la femme uniquement sous cet angle-là. Tout l'enseignement, tous les mercredis, il a enseigné en 60, fin 78, 79, 80, 81, une heure par semaine sur l'homme et la femme, et l'unité entre les deux par le corps, à la lumière de ceci, je suis l'Immaculée Conception. C'est génial, hein? Je tiens à vous dire, c'est génial. C'est honteux de ne pas l'avoir lu, hein? C'est une véritable honte de ne pas l'avoir lu. Et c'est extraordinaire, vous comprenez? Donc quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », c'est l'Esprit Saint qui se révèle lui-même. Mais il a besoin, pour qu'on l'entende, pour qu'on le voie, nous qui sommes tellement loin, j'allais dire, que ce soit l'Immaculée qui nous le montre de manière si proche. Vous voyez en gros ce que ça signifie. La créature parfaite et l'Esprit Saint 1, 3, vous voyez. c'est très très extraordinaire. 1-5 aussi, parce qu'elle invite 15 fois la créature qui donne en même temps la lumière de sur l'amour. Vous voyez, 3 plus 2, 5. 15 mystères du rosaire, ça rejoint ça aussi, parce que c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a 153 Ave Maria dans un rosaire. 153 Je vous salue Marie dans un rosaire. C'est aussi pour ça, évidemment. Vous avez 15 dizaines, plus 3 Je vous salue Marie à début. Voilà. Donc ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est ça. C'est que, au fond, quand le Père Kolb a compris ça, il a compris que on ne peut plus, puisque c'était révélé par l'Église, je suis l'Immaculée Conception, puisque l'Immaculée l'avait confirmé, et du moins, puisque l'Esprit Saint l'avait confirmé lui-même, en se servant de la messagère par excellence, on était obligé, désormais, de pénétrer dans le mystère de l'Immaculée Conception pour pouvoir demeurer dans la foi et la charité. On rentre dans une ère nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le Père Kolb a toujours voulu l'affirmer, et c'est pour ça qu'il a tellement, tellement, tellement écrit. Et vous-même, vous pouvez le faire facilement, en prenant n'importe quel passage de l'Écriture, n'importe lequel, n'importe quelle parabole, et vous allez voir, c'est une révélation sur le mystère de l'Immaculée Conception. Vous pouvez me poser des cols, vous verrez. C'est extraordinaire, ça, de voir ça. Et vous pouvez le dire, vous voyez, face à un protestant, en disant, attention, le protestant va vous dire, mais vous divinisez, Marie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, il faut répondre tout de suite. L'Immaculée Conception, c'est l'Esprit Saint, l'Immaculée Conception. C'est Dieu, l'Immaculée Conception. C'est l'Esprit Saint. Alors, évidemment, l'Esprit Saint, quand je te demande de prier, pourquoi vous dites que toujours prier à Sainte Vierge? Je dis à l'Immaculée de prier pour moi. Il y a 5 minutes, je viens de te demander de prier pour moi. Je ne vois pas pourquoi je ne demanderais pas à l'Immaculée de prier. Je ne voudrais pas pourquoi je n'aurais pas le droit, puisque j'ai demandé à toi, espèce d'imbécile, de prier pour moi. Vous voyez? Je peux quand même, non? C'est terrible, ça. Alors, en réalité, les protestants ne comprennent pas pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est des choses, je m'excuse, c'est un peu rébarbatif, mais ça fait rien, ça. C'est quelquefois utile, ça. Parce qu'ils considèrent que c'est Jésus seul qui sauve. Ils ont raison. Ils ont raison. Et donc, Dieu n'a pas pu créer, c'est contraire à toute l'Écriture, Dieu n'a pas pu créer une créature qui soit en dehors des conséquences du péché originel, avant que le Christ fût mort et ressuscité. Parce que tout être doit mourir à cause du péché. Donc ça voudrait dire que le Christ n'est pas nécessaire pour être sauvé. Si Marie est immaculée dans sa conception avant que le Christ soit né et soit crucifié, ça voudrait dire que il n'est pas nécessaire de passer par le Christ pour être sauvé. Ils ont parfaitement raison. Ce qui montre bien que le mystère de l'immaculée conception, ce n'est pas un retour au paradis terrestre. Pas du tout. Marie, c'est pas la création d'une femme sans péché originel. Enfin, ça aussi, bien sûr, mais c'est pas ça principalement. C'est pas le paradis terrestre. Pas du tout. C'est le fait que, parce que Ève est une femme naturelle. Vous voyez, c'est naturel. Elle a la nature sans brisure. C'est la nature humaine telle que Dieu l'a créée. Tandis que Marie, tout à fait différent, elle est sauvée par le Christ dès l'instant de sa conception. Ce que dit justement... Pourquoi ça ne marche pas? Ce que dit justement tous les pères de l'Église, tous les docteurs et l'enseignement apostolique en disant que quand le cœur de Jésus s'est ouvert, l'âme de Jésus était sortie, s'était arrachée de son corps. C'est saint Augustin surtout qui explique que toutes les grâces du salut sortent au moment du coup de lance. Mais au moment du coup de lance, on a bien le corps de Jésus qui est dans le temps, mais l'âme humaine de Jésus est dans la résurrection. Ce que sent Jésus, c'est la résurrection. Il est dans la vision béatifique et toute son âme est dans la gloire. Son corps est dans la dérédiction, mais séparé. Donc son âme est... En gros, le mystère de l'Immaculée Conception. Les journalistes, pour nous rencontrer, ils vont avoir du mal. La co-rédemption s'explique aussi, bien sûr, uniquement par le mystère de l'Immaculée Conception. Puisque la co-rédemption a lieu, tu vois, la co-rédemption, là je viens d'en exprimer un des aspects. Puisque c'est le sang de Jésus qui constitue le mystère de l'Immaculée Conception dès le premier instant de sa conception, par justement un mystère de séparation de l'âme et du corps de Jésus. Et du coup, c'est cette partie de son propre sang qu'il se constitue et qu'il va prendre, mélanger au sang de l'Immaculée, pour se constituer son propre corps. Donc c'est tout est dans la rédemption. Et l'Immaculée donc donne librement son sang pour pouvoir permettre l'incarnation par son fiat. Le mystère de la co-rédemption, c'est le fait que Marie se saisit de sang de Jésus et le donne, mais à travers la foi. La co-rédemption implique la foi. Voilà. Ben écoutez, c'est pas si commode que ça déjà assimiler tout ça, alors on continuera plus loin, un peu plus tard, tu vois. Elle se sert du sang de Jésus. Elle est constituée dès le premier instant de sa conception dans le sang de l'agneau. Jésus a pris en tant que Dieu, j'allais dire, et en tant que dans son amour humain, qui est dans son âme séparée de son corps, son sang qui sort du cœur, donc la partie la plus puissante, la plus centrale de son cœur humain, pour constituer l'Immaculée Conception, tu vois, 40 ans avant. Marie, elle va prendre son propre sang à elle pour le donner au moment de l'incarnation, au moment du fiat, pour permettre que ce sang de Jésus soit saisi par Dieu lui-même dans son sang. Et puis, il se crée un corps à partir de là. La traduction était facile, Gloria.